Nous allons pouvoir continuer notre parcours sur la prière chrétienne. Et nous allons tout d'abord terminer donc la partie concernant les sacrements, en parlant également des sacramentaux, puisque nous n'avions pas encore eu l'occasion d'en parler de façon plus précise. Et puis du lieu de la célébration, le lieu où justement la plupart du temps les sacrements sont donnés dans l'Église. Et c'est intéressant de pouvoir aussi faire ce récapitulatif sur le lieu de la célébration. Et ça permet à nous tous, lorsque nous allons dans l'Église, de vérifier en quelque sorte si le lieu de la célébration qu'est l'Église eh bien, comporte bien tous les éléments qui expriment ce qu'elle est, le lieu de la célébration des sacrements. Alors, dans le catéchisme, c'est dans la partie donc, concernant l'économie sacramentelle, donc l'introduction à la partie concernant les sacrements, et donc au numéro 1179 jusqu'au 1186, où célébrer le culte de la nouvelle et éternelle alliance. Rappelons tout d'abord que le temple que Dieu a voulu constituer en nous envoyant son Fils, le Christ, et son Esprit Saint, c'est nous, en tant qu'Église, peuple de Dieu, communauté croyante, qui sommes devenus le temple du Dieu vivant. C'est nous les pierres vivantes de ce nouveau temple qu'est l'Église, avec un E majuscule. Mais cette communauté croyante qu'est l'Église a besoin aussi donc d'avoir un lieu concret pour se rassembler et pour célébrer. Et c'est ce que l'on appelle les églises avec un E minuscule, les édifices destinés au culte divin. Ces édifices signifient et manifestent l'Église qui vit en ce lieu, c'est-à-dire la communauté des croyants, la demeure de Dieu avec les hommes. Et donc, voyez, quand on regarde comment l'Église est aménagée, cela peut aussi nous aider à mieux comprendre qui nous sommes en tant qu'Église du Christ. C'est comme une visibilisation extérieure de ce que nous devons vivre aussi, et d'abord intérieurement, en faisant de toute notre vie un vivant sacrifice d'action de grâce à la louange de la gloire de Dieu. Alors la maison de prière qu'est l'Église, pour nous catholiques, ce n'est pas seulement le lieu où se rassemblent les fidèles, mais c'est aussi le lieu de la présence permanente du Fils de Dieu au milieu de nous, dans le sacrement de l'Eucharistie, qui, en dehors de la messe, est aussi présent dans l'Église, puisqu'il y a dans le tabernacle les hosties consacrées qui sont le mode de présence réelle du Christ au milieu de nous. Et donc, quand on entre dans une église catholique, tout de suite, nos regards devraient pouvoir s'orienter vers le tabernacle, là où le Christ est réellement présent, sous la forme des hosties consacrées, dans le ciboire conservé dans le tabernacle. Et donc, quand on entre dans l'église, on ne devrait pas chercher longtemps pour trouver le tabernacle. Tout de suite, on devrait pouvoir le voir devant nos yeux, avec cette lumière rouge qui est placée auprès de lui pour justement nous rappeler que là, le Christ est présent et que nous pouvons le rencontrer à toute heure de la journée lorsque nous entrons dans l'Église. Donc l'Église comme bâtiment, pour nous catholiques, c'est vraiment la maison de Dieu. Dieu est réellement présent dans l'Église et c'est là que nous pouvons aller le rencontrer dans le silence de notre prière, en dehors donc aussi des célébrations liturgiques. Donc voilà, première règle, le tabernacle doit être situé dans chaque église en un lieu très digne, avec le plus grand honneur qui lui est dû. La noblesse, la disposition et aussi la sécurité du tabernacle, on sait à notre époque malheureusement qu'il y a beaucoup de profanation, Et donc, il faut veiller aussi à ce que le tabernacle soit un lieu sûr pour ne pas être profané. Tout cela doit favoriser l'adoration du Seigneur qui est réellement présent dans le Saint-Sacrement. Il y a également au cœur de nos églises l'autel. L'autel qui représente la croix du Christ, puisqu'en fait, l'autel de la Nouvelle Alliance, c'est la croix du Christ. C'est pour cela que sur l'autel, normalement, doit toujours se trouver une croix pour nous le rappeler. C'est le centre de l'Église, c'est là qu'est rendu présent le sacrifice du Christ sur la croix, à chaque messe que nous célébrons. L'autel, c'est aussi la table du Seigneur, à laquelle tout le peuple de Dieu est invité. Quand nous allons à la messe, eh bien, voilà, nous sommes invités à la table du Seigneur. Et puis, dans certaines liturgies orientales, l'autel est aussi le signe du tombeau du Christ. Et la nappe de l'autel, qui est déposée sur l'autel, peut nous faire penser aussi au linceul du Christ. Oui, sur l'autel, c'est aussi le lieu où le Christ se rend présent, lui qui est mort sur la croix et qui est ressuscité au matin de Pâques et qui est sorti vivant du tombeau. Donc vous voyez qu'en regardant l'autel, on devrait penser aussi tout de suite au mystère pascal, à la mort et à la résurrection du Christ, et pourquoi pas aussi, bien sûr, à son ensevelissement, comme c'est le cas dans plusieurs liturgies orientales. Donc le tabernacle, l'autel, et puis il y a aussi le siège de l'évêque si c'est dans la cathédrale, c'est ce qu'on appelle la cathèdre, hein, le siège épiscopal, ou bien dans une église paroissiale, le siège du prêtre qui va présider la célébration eucharistique. Ce siège aussi doit se distinguer des autres sièges pour exprimer la fonction de celui qui préside l'assemblée et qui dirige la prière. Il y a bien sûr aussi l'ambon, c'est-à-dire ce pupitre, entre guillemets, où la parole de Dieu va être proclamée par la lecture des Saintes Écritures au cours de la célébration liturgique. Et cet ambon doit aussi être bien visible et être représenté, être aménagé, j'allais dire, d'une façon qui exprime la dignité de la parole de Dieu qui est proclamée à cet endroit. Et normalement, c'est un lieu réservé pour la proclamation de la parole de Dieu, donc première lecture, psaume, deuxième lecture, évangile. Par contre, pour la prière universelle ou pour les autres prises de parole qui peuvent avoir lieu, comme les annonces, il ne faut pas se rendre à l'ambon, mais à un autre pupitre, celui du chantre, par exemple, qui n'est pas le même que l'ambon, sauf pour le psaume, puisque le psaume, quand il est chanté, eh bien, il est chanté depuis l'ambon, puisque le psaume est aussi parole de Dieu. Normalement, dans l'église, il y a également le baptistère, le lieu donc où nous sommes devenus enfants de Dieu en recevant le sacrement du baptême. Et là aussi, dans chaque église, le lieu où se trouve le baptistère devrait être un lieu significatif, bien aménagé, montrant la dignité que nous recevons par le baptême. C'est le lieu de notre renaissance spirituelle, et donc c'est un lieu très important que nous devons aussi valoriser dans chacune de nos églises. Malheureusement, souvent, il n'y a plus de baptistère, c'est une espèce de cuve qui est apportée devant l'autel juste pour le baptême, mais l'idéal, ce serait qu'il y ait un lieu fixe, stable, où le baptistère se trouve dans l'église, et si possible, plutôt à l'entrée de l'église, puisque le baptistère, c'est le lieu où nous devenons enfants de Dieu, et donc où nous entrons dans la communauté croyante qu'est l'église. Dans l'église devrait aussi se trouver un lieu digne et attirant, pourrait-on dire, pour le sacrement de la réconciliation, ce qu'on appelle donc le confessionnal. Alors, il y a bien sûr dans plusieurs églises des confessionnaux qui sont encore présents, mais malheureusement presque tous inutilisés. Pourquoi pas en remettre un plus particulièrement en valeur et que l'on puisse tout de suite voir que c'est l'endroit où nous recevons le pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu. On peut mettre par exemple l'icône du Christ miséricordieux à proximité pour nous le rappeler. Et puis il y a dans différentes églises aussi voilà, un confessionnal aménagé d'une façon différente, permettant aussi un entretien plus direct avec le prêtre. Mais en tout cas, ce lieu doit être bien présent et visible dans l'église, avec bien sûr la discrétion nécessaire pour le sacrement de la confession, et permettre ainsi aux fidèles de ne pas craindre d'être entendus lorsqu'ils vont se confesser, ne pas être entendus par d'autres personnes que le prêtre. Et puis, n'oublions pas aussi, le catéchisme nous rappelle que le Saint-Crème, donc cette huile consacrée qui va servir pour les baptêmes, pour la confirmation, et puis plutôt dans les cathédrales pour l'ordination des prêtres, ce Saint-Crème doit être aussi conservé dans un endroit digne, et si possible, donc dans l'église. On peut y joindre bien sûr l'huile des catéchumènes et l'huile pour le sacrement des malades, pour que nous n'oublions pas que ce sacrement, ces sacrements existent aussi, notamment le sacrement des malades qui est souvent l'oublié de tous les sacrements, et que ceux qui sont malades ben, pensent aussi à demander ce sacrement. Alors, nous sommes bientôt au mois de février, donc il y aura dans la plupart des paroisses autour du 11 février, qui est la journée mondiale de prière pour les malades, des messes qui seront célébrées pendant lesquelles le sacrement des malades sera donné publiquement au cours de la messe, ce qui nous permet au moins à ce moment-là, chaque année, de nous rappeler que ce sacrement existe aussi et qu'il faut le demander quand nous sommes atteints d'une maladie qui peut mettre notre vie en danger. Et pour terminer, il est bon que chacune de nos églises ait un espace un peu transitoire, un espace de passage entre l'extérieur et l'intérieur, hein. Le seuil de l'église. Dans plusieurs églises, il y a ce qu'on appelle le narthex, où on passe de l'extérieur à l'intérieur par cet espace aménagé qui est à la fois en contact avec l'extérieur et avec l'intérieur. Donc c'est vraiment le seuil pour entrer dans la maison de Dieu, le symbole du passage du monde blessé par le péché au monde de la vie nouvelle dans le Christ. L'Église tout entière est le signe visible de la maison du Père vers laquelle le peuple de Dieu est en marche et où Dieu notre Père essuie toutes larmes de nos yeux. L'Église doit donc être un lieu accueillant et ce ne devrait pas être difficile de pouvoir y entrer. On sait comment les catéchumènes nous racontent souvent, avant d'être catéchumènes, ils n'osaient pas entrer dans l'église, ils pensent que c'est un espace réservé, et donc il faut leur faciliter aussi l'accès à l'église. Dans l'église paroissiale où je suis, il y a une ouverture automatique des portes, ce qui fait que quand les gens entrent dans le narthex et qu'ils s'approchent de la porte, elles s'ouvrent toutes seules. Et donc, voilà, ça peut être aussi une manière, là où c'est possible, de susciter l'entrée des personnes dans l'église, qui doit être donc toujours ouverte et accueillante. Oui, n'oublions pas cela, hein. On sait que c'est difficile à notre époque avec tous les vols qui ont lieu, et puis la difficulté qu'il y ait toujours quelqu'un dans l'église pour surveiller ceux qui y passent. Mais il faudrait faire tout notre possible pour que les églises soient ouvertes la plus grande partie de la journée. Voilà, cette maison de Dieu doit être ouverte à tous, et ceux qui y entrent peuvent y ressentir la présence de Dieu d'une manière ou d'une autre, être touché par la grâce de Dieu. Donc, je conclus par là. Pensons à faire tout notre possible pour que nos églises soient ouvertes. Un mot maintenant sur les sacramentaux pour conclure cette partie que nous avions déjà enclenchée la dernière fois sur la vie sacramentelle. Donc il y a non seulement les sept sacrements, mais il y a aussi les sacramentaux. De quoi s'agit-il? Le catéchisme nous en parle au paragraphe 1667. Les sacramentaux sont des signes sacrés par lesquels, selon une certaine imitation des sacrements, des effets surtout spirituels sont signifiés et obtenus par la prière de l'Église. Par ces sacramentaux, les hommes sont disposés à recevoir l'effet principal des sacrements et les diverses circonstances de la vie en sont sanctifiées. Alors, de quoi s'agit-il pour donner des exemples de sacramentaux? Eh bien, prenons par exemple les bénédictions. Il y a toutes sortes de bénédictions que nous pouvons donner. Bénédiction de personnes, bénédiction de la table, hein, quand on prie à la maison, à table, avant le repas ou après le repas. C'est un sacramental. Cela fait partie donc de ces prières. Ce n'est pas un sacrement en tant que tel, mais cela nous tourne vers Dieu et c'est une bénédiction. Donc toutes les bénédictions, aussi d'objets, bénédictions aussi de lieux, ce sont des sacramentaux. Toute bénédiction est une louange de Dieu et une prière pour obtenir ses grâces. Alors il y a certaines bénédictions qui ont une portée durable. Les bénédictions dont je parlais auparavant sont plus des bénédictions ponctuelles, mais il y a aussi des bénédictions qui ont une portée durable, qui ont pour effet de consacrer des personnes à Dieu et de réserver à l'usage liturgique certains objets et certains lieux. Alors parmi les bénédictions de personnes qui consacrent ces personnes, il y a la bénédiction de l'abbé ou de l'abbesse d'un monastère. Il y a la célébration de consécration des vierges. Il y a le rite de la profession religieuse. Et il y a aussi les bénédictions pour certains ministères d'église, comme le lectorat, l'acolytat, bénédictions pour des catéchistes. Tout cela, ce sont aussi des sacramentaux. Donc cela ressemble au sacrement, mais sans être l'un des sept sacrements en tant que tel. Et puis, parmi les bénédictions qui deviennent consécration, mais cette fois-ci pour des lieux ou des objets, il y a la bénédiction d'une église, la bénédiction d'un autel, la bénédiction des saintes huiles, la bénédiction des vases et des vêtements sacrés, la bénédiction des cloches. Tout cela, ce sont aussi des sacramentaux. Et puis, n'oublions pas aussi que parmi les sacramentaux se trouvent ce qu'on appelle les prières d'exorcisme, qui est pratiquée donc, l'exorcisme, lors d'une célébration, avec un prêtre qui va prononcer cette prière. Alors là, je pense plus particulièrement au grand exorcisme, qui ne peut être pratiqué que par le prêtre exorciste mandaté par l'évêque, puisqu'en fait c'est l'évêque qui est le grand exorciste dans chaque diocèse en tant que successeur des apôtres, et il va déléguer cette mission à tel ou tel prêtre qui va donc exercer au nom de l'évêque la mission d'exorciste et prononcer ce grand exorcisme quand c'est nécessaire pour les personnes qui en auraient besoin pour expulser donc les démons qui peuvent posséder ces personnes et donc les libérer de l'emprise démoniaque. Bien sûr, auparavant, il y a des entretiens pour s'assurer que c'est vraiment de cela dont la personne a besoin et non pas d'autre chose, comme par exemple une prière de consolation, une prière de délivrance. Ce n'est pas le grand exorcisme, ce sont des prières aussi spécifiques en fonction de ce dont la personne peut avoir besoin. Et ce sont aussi donc des sacramentaux. On redécouvre à l'heure actuelle la valeur de ces prières de consolation et de délivrance qui ne sont pas un exorcisme, mais dont beaucoup de personnes, on pourrait dire même chacun de nous, a besoin, puisqu'on a tous besoin de consolation et qu'on a tous besoin d'une prière spéciale de l'Église pour nous délivrer de certaines mauvaises ornières dans lesquelles nous retombons tout le temps et dont nous avons du mal à sortir, sachant que cela existe aussi et que cela fait partie des sacramentaux. Et puis plus largement, parmi les sacramentaux, on peut aussi associer les formes de religiosité populaire, comme la prière du rosaire, comme les processions, comme les médailles, les croix qui sont bénites par le prêtre, encore des bénédictions d'objets. Et puis il y a aussi les bénédictions des semailles, la bénédiction des moissons dans les zones rurales. Et puis voilà, toutes ces prières qui vont permettre à toute notre vie humaine d'être sanctifiée par la grâce de Dieu, d'être offerte à Dieu, d'être le signe de sa présence et de son amour qui prend part à toute notre vie humaine et qui l'élève vers Dieu. Voilà pour les sacramentaux. Donc nous concluons ainsi la partie que nous avions commencée la dernière fois sur les sacrements, la prière sacramentelle, la vie sacramentelle de l'Église. Et maintenant, nous allons passer à un autre grand chapitre de tout notre parcours sur la prière chrétienne. Et ce grand chapitre s'appelle « La révélation de la prière ». Voilà, donc nous commençons maintenant le chapitre concernant la révélation de la prière. Donc dans le catéchisme, c'est à partir du paragraphe 2566. Donc c'est la grande introduction de la dernière partie du catéchisme consacré à la prière. Et ce chapitre sur la révélation de la prière commence par un rappel, qui est toujours le bienvenu, de l'appel universel à la prière. Vous voyez, on est habitué aussi à parler de l'appel universel à la sainteté. Eh bien, cet appel universel à la sainteté se traduit par l'appel universel à la prière. Et là, nous retrouvons un concept fondamental de la foi chrétienne qui va concerner aussi, bien sûr, la prière chrétienne, puisque la prière, c'est la première conséquence de la foi, et en même temps, c'est elle, la prière, qui nourrit la foi. Elle exprime notre relation à Dieu et elle nourrit notre relation avec Dieu. Elle est en même temps expression et moyen de notre relation à Dieu. Alors rappelons ici trois choses essentielles qui vont éclairer justement ce thème de la révélation de la prière. L'homme est à la recherche de Dieu. C'est la dimension spirituelle et religieuse de l'être humain. Et la caractéristique la plus profonde de l'être humain, c'est qu'il est à la recherche de Dieu. Rappelez-vous, on a célébré donc les obsèques de Benoît XVI et à cette occasion, on a pu réécouter les discours de Benoît XVI et différentes interventions qu'il a pu faire, et notamment celles qu'il avait données à Paris, au Collège des Bernardins, lorsqu'il est venu inaugurer ce Collège des Bernardins en 2008 lors de son voyage apostolique en France, à l'occasion des 150 ans des apparitions de la Vierge à Lourdes. Il est passé d'abord à Paris, et donc en inaugurant le Collège des Bernardins, il a fait ce discours qui, devant le monde de la culture, rappelait le plus important, en fait, le fondement de toute culture, à savoir la recherche de Dieu. Quaerere Deum, c'est cela qui anime de la manière la plus profonde l'être humain, chercher Dieu. L'homme est un mendiant de Dieu. L'être humain, qui est le sommet de la création, est capable de chercher Dieu. Il est fait pour entrer en relation avec Dieu, pour connaître et aimer Dieu. Et donc, il est fait pour prier. La prière est le propre de l'être humain. Un homme qui ne prie pas, c'est un homme amputé, privé de ce qui fait le cœur de sa vie humaine, la relation avec Dieu. Il est créé par Dieu et pour Dieu. Donc sans la prière, il ne peut pas pleinement accomplir et épanouir son humanité. Depuis que l'homme est homme, dotés d'une âme spirituelle, rationnelle et immortelle, ils cherchent Dieu et ils prient. Même après avoir perdu la ressemblance avec Dieu par son péché, je cite ici le catéchisme, l'homme reste à l'image de son Créateur. Il a perdu la ressemblance, mais il reste à l'image de son Créateur. Donc il garde le désir de celui qu'il appelle à l'existence, Dieu. Toutes les religions témoignent de cette quête essentielle des hommes. Donc l'homme à la recherche de Dieu. Premier point. Deuxième point essentiel à rappeler, avant de parler de la prière chrétienne, évidemment, c'est Dieu lui-même qui est à la recherche de l'homme. Si Dieu est le créateur de l'homme, si Dieu nous a créés par amour, il ne va pas être loin de l'homme. Il va tout faire pour se faire connaître de l'homme, pour se rapprocher de lui. Il va se révéler. Il va venir à la rencontre de l'homme pour lui parler et pour faire alliance avec lui. Même si l'homme se détourne de Dieu et s'éloigne de lui, c'est le péché, Dieu va venir à la recherche de l'homme, tel le bon pasteur qui part à la recherche de sa brebis perdue pour la retrouver, pour la sauver, c'est-à-dire pour la ramener à lui. Toute cette révélation de Dieu qui part à la recherche de l'homme se déroule à travers toute une histoire, l'histoire du salut. Et elle s'accomplit lorsque Dieu envoie son propre Fils sur la terre, le Christ, Dieu fait homme, qui va ensuite envoyer l'Esprit Saint dans le cœur des hommes qui croient en lui. Voilà Dieu à la recherche de l'homme. Alors, lorsque ces deux recherches, la recherche de l'homme qui veut rencontrer Dieu et la recherche de Dieu lui-même qui veut rencontrer l'homme, eh bien, il faut qu'à un moment donné, cette rencontre puisse se faire. La réponse de l'homme à Dieu qui vient à sa rencontre, dans le Christ, cela s'appelle la foi. C'est la foi chrétienne. La foi, c'est beaucoup plus que de croire simplement en l'existence de Dieu. Cela, tout homme qui réfléchit arrive à le savoir par sa raison. Mais la foi, c'est la foi en Dieu qui se révèle. C'est la foi en Dieu qui se donne. L'homme qui reconnaît et qui accueille cette révélation de Dieu à travers toute cette histoire du salut et au plus haut point dans le Christ, cet homme-là devient véritablement et pleinement croyant. Il reconnaît la vérité de cette révélation de Dieu qui vient à sa rencontre et il accueille avec reconnaissance ce Dieu qui se révèle et qui se donne à lui dans le Christ et l'Esprit Saint. Par la foi, l'homme se donne à Dieu qui veut se donner à lui. C'est comme un mariage. Et ainsi peut s'accomplir l'alliance entre Dieu et l'homme grâce à la foi, par mon adhésion totale au Christ, à l'Esprit Saint et ainsi au Père éternel, donc à la Trinité. Tout comme la foi, le propre de la prière chrétienne sera donc toujours d'être une réponse à Dieu qui se révèle, à Dieu qui est le premier vient à ma rencontre pour m'unir à lui. La prière, c'est vraiment une histoire d'amour. C'est même la plus belle et la plus grande histoire d'amour, puisque c'est l'amour entre l'homme et Dieu, entre Dieu et l'homme. Alors je vous cite ce beau passage du catéchisme, c'est le paragraphe 2567, qui nous dit « Que l'homme oublie son Créateur ou se cache loin de sa face, qu'il court après ses idoles, ou accuse la divinité de l'avoir abandonné, le Dieu vivant et vrai appelle inlassablement chaque personne à la rencontre mystérieuse de la prière. cette démarche d'amour du Dieu fidèle est toujours première dans la prière. La démarche de l'homme est toujours une réponse. Au fur et à mesure que Dieu se révèle et révèle l'homme à lui-même, la prière apparaît comme un appel réciproque, un drame d'alliance. À travers des paroles et des actes, ce drame engage le cœur, il se dévoile à travers toute l'histoire du salut. Fin de citation. Toute cette histoire du salut, elle est relatée dans la Bible. Alors nous allons pouvoir maintenant faire un rapide parcours biblique, un survol de la révélation de la prière dans les Saintes Écritures. Et vous pourrez ensuite approfondir vous-même telle ou telle étape de ce parcours biblique en allant regarder directement dans votre Bible, ce qui vous aura peut-être davantage interpellé. Oui, entrons maintenant dans cette révélation de la prière, dans cette pédagogie divine qui est à l'œuvre depuis si longtemps pour nous apprendre à prier, pour nous inviter à entrer dans cette alliance d'amour avec Dieu par la foi et donc par la prière. Pas de foi sans prière. Commençons ce parcours par l'Ancien Testament. La prière du peuple de Dieu. C'est dans le catéchisme, les paragraphes de 2568 à 2597. Dans ce chapitre sur la révélation de la prière dans l'Ancien Testament, il y a évidemment au commencement la création. La création qui est source de la prière. Le catéchisme nous dit, c'est d'abord à partir des réalités de la création que se vit la prière. Toute la création est une déclaration d'amour de Dieu pour l'homme, et donc déjà une révélation de l'amour de Dieu. Dieu nous parle à travers sa création, si belle. Toutes les créatures sont un message de Dieu, une expression de son amour. Le monde visible nous dit quelque chose du monde invisible. Le monde matériel nous dit quelque chose du monde spirituel, qui va s'exprimer aussi à travers les choses visibles et concrètes de l'univers. Saint François d'Assise l'avait très bien compris, et pas seulement lui, mais voilà, il est devenu une figure emblématique de cette reconnaissance de l'amour de Dieu qui s'exprime d'abord à travers toute la création. Et cela, c'est pleinement assumé dans la liturgie et les sacrements, nous l'avons vu, où les éléments du monde sensible deviennent les vecteurs de la grâce invisible de Dieu, de sa présence, de son action, de son amour. Donc n'oublions pas que la création est déjà une première étape de la prière. Et bien sûr, si nous n'existions pas, nous ne pourrions pas prier. Donc nous avons été créés, et donc c'est dans cette création que commence notre vie de prière. Un deuxième point va concerner maintenant, vraiment à proprement parler, le peuple de Dieu, à commencer par Abraham et les patriarches. C'est la promesse et la prière de la foi. La vocation d'Abraham nous manifeste la prière comme une écoute et une obéissance du cœur qui se décide selon Dieu et qui lui fait confiance. C'est dans le livre de la Genèse, quand Dieu dit au chapitre 12, je crois, à Abraham, qui s'appelle alors Abraham, « Quitte ton pays, va vers le pays que je te montrerai. » Et Abraham entend cet appel et il l'écoute, c'est-à-dire qu'il le met en pratique, il va répondre à cet appel et se mettre en route. Dans l'histoire d'Abraham, il y a aussi l'hospitalité d'Abraham, rappelez-vous, lorsqu'il accueille ces trois mystérieux personnages qui n'en font qu'un. C'est déjà une annonce du mystère de Dieu Trinité. qui vient frapper à la porte d'Abraham et qui mendie son hospitalité. Oui, la prière est aussi une hospitalité que nous rendons envers l'hôte mystérieux qui vient frapper à notre porte, Dieu lui-même. Il y a aussi dans l'histoire d'Abraham l'intercession d'Abraham. Rappelez-vous lorsqu'il prie pour Sodome et Gomorrhe, demandant à Dieu s'il y a un seul juste, tu épargneras la cité. L'intercession d'Abraham nous révèle la prière comme une compassion pour les hommes et une intercession audacieuse pour eux devant Dieu. Et puis ensuite, il y aura cet épisode du sacrifice d'Isaac par Abraham. Vous vous rappelez que l'ange du Seigneur retiendra le bras d'Abraham pour l'empêcher de sacrifier Isaac et que ce fut pour Abraham une épreuve pour voir s'il allait vraiment être totalement disponible pour faire la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit, même s'il ne la comprend pas sur le moment, même si elle semble contredire ce que Dieu avait promis. La prière nous est ici révélée comme une participation à la puissance de l'amour de Dieu qui veut sauver la multitude en livrant son propre fils en sacrifice. Et puis, après Abraham, il y a les autres patriarches, et notamment Jacob. Et là, dans l'histoire de Jacob, il y a le fameux combat de Jacob qui lutte toute une nuit avec l'ange du Seigneur et qui, au matin, eh bien, obtient la bénédiction de Dieu. Et là, dans cette histoire du combat de Jacob, la prière nous est révélée comme un combat, le combat de la foi et une victoire de la persévérance. Il faut persévérer dans la prière. Et finalement, si nous persévérons dans la prière, Dieu nous comble de sa bénédiction. Troisième étape dans cette révélation de la prière dans l'Ancien Testament, après la création, après les patriarches, avec notamment Abraham et Jacob, nous en venons à Moïse. Et la prière de Moïse, comprise comme la prière du médiateur. Oui, la prière de Moïse est la figure saisissante de la prière d'intercession, nous dit le catéchisme. Il y a l'épisode tout d'abord du buisson ardent dans la vie de Moïse, cet événement où Dieu appelle Moïse, se révèle à lui et lui confie une mission libératrice. Cet épisode du buisson ardent est devenu l'une des figures primordiales de la prière dans la tradition spirituelle juive puis chrétienne. Dieu appelle Moïse pour l'envoyer, pour l'associer à sa compassion et à son œuvre de salut. On nous dit par la suite, dans le livre de l'Exode, que Dieu parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. La prière de Moïse est typique de la prière contemplative grâce à laquelle le serviteur de Dieu va pouvoir demeurer fidèle à sa mission et recevoir la force pour l'accomplir. Moïse apparaît constamment aussi comme le médiateur entre Dieu et son peuple. C'est une vraie figure sacerdotale. Il gravit la montagne pour rencontrer et écouter Dieu et il redescend pour transmettre au peuple les paroles de Dieu, et notamment les 10 commandements. Donc vraiment la figure du médiateur, figure sacerdotale entre Dieu et son peuple. Il navigue en permanence entre Dieu et son peuple. Et surtout, Moïse ne cesse jamais d'intercéder pour le peuple lorsqu'il est infidèle, lorsque le peuple manque de foi, de confiance en Dieu, et qu'il est toujours tenté de se rebeller et de se révolter contre Dieu. Eh bien, Moïse va intercéder pour que Dieu prenne ce peuple en pitié, ce peuple à la nuque raide, qui a du mal à se convertir et à faire confiance en Dieu.
Chers auditeurs, c'était notre émission Apprends-nous à prier. Nous étions avec le Père Jérémy Bonneau. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.